dans le grand rendez-vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
Et je vous rappelle que dans votre émission ce soir, nous débattrons des résultats provisoires de la présidentielle au Burkina Faso avec le coup KO du président sortant Rochma Christian Kabore, arrivé en tête avec dès le premier tour devant Eddy Kombouygo du CDP, Zéphirin Diabré, leader de l'UPC, selon des résultats provisoires de la commission électorale. La seule femme candidate, Monique Yelikam, est arrivée 12e sur 13 candidats. Mais avant, parlons de l'Angola. Ces dernières semaines, plusieurs manifestants sont descendus dans les rues de la capitale Luanda pour dénoncer la pauvreté et exiger des emplois. C'est dans Décryptage avec notre invité.
Décryptage dans le grand rendez-vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
Ricardo Vita, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chroniqueur pour des journaux angolais et portugais, dont Publico au Portugal et O País en Angola. Le climat social s'est-il apaisé aujourd'hui en Angola après les manifestations de ces dernières semaines contre le chômage et le coût élevé de la vie?
Non. Je dirais que la situation continue un peu tendue pour des raisons complètement, je dirais, objectives et compréhensibles. D'une part, l'Angola se trouve aujourd'hui dans un contexte complètement compliqué, économiquement, je dirais socialement, le pays est complètement déchiré, économiquement épuisé, je dirais même que culturellement, le pays est plongé dans un trouble. Ce n'est pas forcément dû au président actuel, ce n'est pas forcément lui qui est le responsable de tout ça, parce qu'en 3 ans, on ne peut pas forcément changer ce qui a été abîmé pendant 45 ans.
Je dirais que mais peut-être c'est aussi dû au fait que son arrivée au pouvoir en 2017 a suscité beaucoup d'espoir de la part des populations. Et aujourd'hui, il y a comme une désillusion.
Il y a une désillusion parce que les promesses du président, effectivement, ont été un peu trop ambitieuses. Le président, il a promis, par exemple, la création de 500 000 emplois rapidement. Il a promis de combattre la corruption, mais aujourd'hui on a le sentiment que cette corruption n'est pas tout à fait une réussite. Je dis bien un sentiment, moi j'ai un autre avis. Mais en tout cas, je vous traduis ici le sentiment des manifestants, de la population, mais j'irai encore beaucoup plus loin. Il faut quand même dire que le président João Lourenço, quand il est arrivé au pouvoir en 2017, il a tout de suite voulu encourager plus de liberté d'expression, plus d'exercice même, je dirais, de toutes les libertés, de la presse et autres. Le contexte aujourd'hui n'est pas très favorable. Dans un premier temps, il y a d'abord la pandémie qui limite naturellement les libertés, et ça c'est un peu le cas partout dans le monde, c'est pas une exception angolaise. Et l'autre cas qui est effectivement celui que vous évoquez, le cas de mécontentement dû à une pauvreté grandissante, à un taux de chômage record dans le pays. Le coût de vie, d'après certains économistes, est passé depuis qu'il est arrivé, il est de 300 à 400%. Et le président Lourenço a hérité donc d'un pays qui était complètement à terre.
João Lourenço, qui a estimé à 24 milliards de dollars l'évasion des fonds publics sous le régime de Santos.
Exactement. Donc ça, c'est ce qu'il a dit deux fois. Mais ce qu'il faut quand même retenir, et c'est ce qui fait un peu débat aujourd'hui, les gens l'incluent pour avoir fait partie justement de ceux qui ont pillé le pays, pour avoir été un cadre de parti de haut niveau. Mais il faut quand même comprendre que le président Lourenço a déjà, si vous voulez, très rapidement, je dirais il y a 20 ans ou 30 ans, émis quelques réserves sur un certain nombre de choses. Il a par exemple, a été ostracisé parce qu'il avait défié le président Dos Santos en disant que lui, il voulait les succéder et qu'il voulait aussi travailler pour son pays. Et
le Monsieur Vita, on a le sentiment que vous essayez de le dédouaner, mais est-ce qu'en accusant son prédécesseur d'être responsable de la situation économique, ne cherche-t-il pas en réalité un bouc émissaire?
Au contraire, je pense, je ne dédouane pas le président Lourenço, j'appelle juste à la vigilance, parce qu'il y a, je crois, un sentiment ou une volonté de créer une confusion, en fait, dans les choses. On essaye de dire que les 3 années qu'il est resté au pouvoir, il était censé, en quelque sorte, résoudre le problème du pays. Non, on ne peut pas sauver l'Angola de là où on l'a laissé, ou là où il l'a trouvé. Je dis tout simplement qu'il n'a pas fait partie de ceux qui ont gouverné le pays pendant toutes ces années, au premier plan, et qui ont en quelque sorte pris les grandes décisions qui ont mené le pays à la déroute qu'on connaît aujourd'hui. Et en plus, c'est ça qui ne se dit pas assez, il a décidé d'attaquer son parti qui a fait tout ce mal à ce pays. Il a décidé de mener une guerre assez courageuse, et moi je pense que ce n'est pas en trois ans qu'on peut dire que le président a eu suffisamment de temps pour faire le travail qu'il a, en tout cas, voulu faire.
Les manifestants l'accusaient aussi de mener une lutte sélective contre la corruption. Oui. Il fait arrêter les enfants de Santos, alors même que son propre directeur de cabinet est soupçonné de conflit d'intérêts et d'enrichissement illicite et qui n'est pas inquiété.
J'ai écrit moi-même sur ça. J'ai effectivement dénoncé le fait que s'il y a des éléments, on va dire, concrets, ce directeur de cabinet, il fallait évidemment qu'il soit responsabilisé. Mais vous venez de dire une chose essentielle, et qu'il est soupçonné.
Est-ce qu'il n'aurait pas dû être limogé pour pouvoir permettre à l'enquête d'être faite librement ?
Ça fait partie des revendications des manifestants. Ils ont tout le droit de le faire. Sauf que le président aujourd'hui juge qu'il n'a pas suffisamment d'éléments pour aller dans ce sens-là et qu'il continue en fait à mener sa politique qu'il pense être la bonne aujourd'hui.
Merci.
Et qui est critiquée bien entendu par la société civile et une bonne partie de l'opposition.
Ricardo Vita, merci beaucoup. Vous êtes chroniqueur pour des journaux angolais et portugais, dont Publico au Portugal et O País en Angola. Et vous résidez à Paris. Merci.
Je vous en prie. Au revoir.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
Et dans le grand rendez-vous ce soir, nous parlerons de ces résultats provisoires de la présidentielle du 22 novembre publiés au Burkina Faso, avec la victoire dès le premier tour du président sortant, Roch-Marc Christian Kabore. Et nos invités sont en ligne. Clémence Ouadogo, vous êtes vice-président du MPP, porte-parole du candidat Roch-Marc Christian Kabore, déclaré donc vainqueur. Bonsoir, monsieur Ouadogo.
Bonsoir, madame.
Yves Milogo, responsable de la communication du CDP, l'ancien parti au pouvoir. Vous êtes en ligne. Est-ce que vous êtes bien là? Vous m'entendez?
Je vous entends, madame. Bonsoir.
Bonsoir à vous, monsieur Milogo. Bonsoir également à Boundi Ouba, qui est directeur de rédaction du journal Le Pays. Bonsoir, Boundi.
Bonsoir.
Merci beaucoup. Serge Bambara, porte-parole du mouvement Balai Citoyen, également en ligne de Burkina. En tout cas, vous êtes tous en ligne de Ouagadougou. Serge, bonsoir.
Bonsoir.
Je vais commencer par vous, monsieur Ouadogo. J'exprime ma reconnaissance à la nation. Je salue et félicite l'ensemble des candidats à cette élection. Je salue leur fair play. Ça, ce sont les premiers mots de votre candidat déclaré vainqueur. Et il ajoute, je mettrai tous mes efforts pour une concertation permanente pour travailler pour la paix et le développement de notre pays. Est-ce à dire que la victoire sera donc confirmée par la Cour constitutionnelle? Vous en êtes certain? Monsieur Ouadogo?
Les usages, oui.
Oui, allez-y, s'il vous plaît.
Les usages, la démocratie, dès que les résultats sont proclamés par la commission électorale, même sans attendre le délibéré du Conseil constitutionnel, on considère qu'elle est quand même déjà acquise. Ça se passe ainsi un peu partout, hein, que ce soit en France, aux États-Unis ou ailleurs, en Afrique. C'est ainsi comme ça. Alors, en plus, quand on a une victoire dès le premier tour où il y a même une marge au-dessus de 50%.
De ce qui était nécessaire pour remporter dès le premier tour.
De ce qui était nécessaire, dans ce cas, quand même 7 points, près de 8 points au-dessus de 50. On se dit que même si après il y a des annulations par le Conseil constitutionnel, même si après il y a quelques petites retouches, ça ne remettra pas en cause la victoire.
On verra ce qu'en pensent les autres invités qui sont avec nous. Avant de leur passer la parole, une autre précision. Je souhaitais avoir une précision, Monsieur Sawadogo, sur cette expression qui a été employée par votre parti, le MPP, qui dit avoir pris acte de la victoire du président Kabore. Le Winvuka ou le Tako Kele s'est donc réalisé conformément à nos prévisions. Pour les non-burkinabés, qu'est-ce que cela veut dire?
Le Tako Kele, c'est une expression dans l'une des langues nationales de notre pays, la langue du lac, qui veut dire un Kukao.
Ah, d'accord. C'est synonyme Tako Kele, c'est synonyme de Kukao.
Voilà, c'est ça.
Très bien. Je vais poser la question à Monsieur Milogo du CDP. Votre candidat, Eddy Kombo-Higo, est arrivé en deuxième position. Est-ce que c'est un résultat auquel vous vous attendiez, Monsieur Milogo?
Oui, je vous remercie de me donner la parole. Je tiens à saluer mon grand frère Clément Sawadogo. Et je salue aussi tous les électeurs du Burkina Faso, même si effectivement on peut émettre des réserves ci et là. Si effectivement c'est confirmé par la Cour constitutionnelle, nous allons féliciter le vainqueur. Alors, nous ne nous attendions pas à ce résultat. D'autant plus que la question qui se pose, c'est pas pourquoi ce résultat, c'est de savoir comment s'est réellement passé ces élections. Alors cela pose un sérieux problème au Burkina Faso et il faut pas avoir des réponses hâtives à une question aussi importante. Je m'en vais vous dire deux choses. La première chose, M. Sawadogo le sait, et lui-même son président du parti et leur candidat. C'était les mêmes qui organisaient les élections dans les années 2000 pour Blaise Compaoré et il avait 80%. Pourtant, c'est après ces 80% que la rue est sortie. Donc, moi, je m'interroge. Est-ce que cette victoire, la manière dont le MPP a mené la campagne pour avoir cette victoire, d'autant plus que la gouvernance que nous avons connue pendant les 5 ans, avec la crise économique, l'insécurité et autres, qui a eu un tel résultat. Nous, on s'interroge. Je ne dis pas que ce n'est pas réel, mais je me pose de sérieuses questions.
Mais est-ce que cela veut dire que vous ne reconnaissez pas la victoire, même si elle reste à être confirmée ou pas par le Conseil constitutionnel? Vous ne reconnaissez pas la victoire de M. Kabore?
Je ne conteste pas cette victoire. Ma question est
mais
bien
claire. Mais quand vous émettez des réserves en posant autant de questions, vous dites vous poser des questions. Il faut bien, à la fin, qu'il y ait une conclusion, qu'on sache clairement quelle est votre position.
Je vais être plus clair.
Oui.
Je vais être plus clair. Parce que moi-même, je vis au Burkina Faso. Dans ma localité, dans ma ville qui est Bobo-Dioulasso.
La seconde ville du pays.
Pendant les 5 dernières années, cette ville a eu des industries fermées, des emplois supprimés. Que ces gens, tous les jours, moi je suis de là-bas, quand les gens m'appellent, que ce soit de la famille ou des proches, c'est pour leur venir en aide. Que ces gens-là aujourd'hui donnent leur voix au MPP, je m'interroge, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils aient donné leur voix au MPP? C'est la question que je pose.
Donc vous voulez dire que les élections n'ont pas été très bien organisées et que si elles l'étaient, le résultat qui est celui du président sortant aujourd'hui n'aurait pas été le même? Vous mettez en quelque...
Madame, attention,
oui.
La CENI a certainement pu faire ce qu'elle devait faire en fonction du code électoral. Mais je m'interroge par rapport à qu'est-ce qui s'est passé. Ça peut ne pas être une erreur de la CENI. Ça peut être aussi des stratégies qui ont été utilisées par certaines parties pour ne respecter
c'est-à-dire,
pas...
C'est-à-dire, soyez plus clair, s'il vous plaît, et on écoute les autres. Soyez plus clair. Quand vous dites stratégie, c'est-à-dire quoi?
Voilà, les méthodes qu'ils ont utilisées. J'étais très clair. Je ne peux pas comprendre...
Distribution d'argent aux électeurs, il y a eu achat de votes. Est-ce que c'est ce que vous voulez dire?
Ça fait partie, mais je ne me limite pas à ça. Je veux comprendre. Je ne comprends pas tout, donc je m'interroge. Je n'ai
d'accord.
pas encore les réponses.
Le temps que vous trouviez peut-être une réponse à nous donner, une réponse très claire d'ici la fin de l'émission, on va écouter le porte-parole du Balai citoyen. Monsieur Bambara, est-ce que pour vous, l'élection s'est bien déroulée? Le double scrutin du 22 novembre aujourd'hui s'est bien déroulé. Est-ce que pour vous, les résultats auxquels on a assisté aujourd'hui reflètent la réalité des urnes.
Oui, madame, merci de me donner la parole. Bonjour déjà à tous vos auditeurs et puis aux invités ici présents. Pour moi, c'est assez simple. Je pense que effectivement, ces élections reflètent assez le sentiment. Je crois que certains élus, malheureusement, ou en tout cas candidats, confondent la perception qu'ils peuvent avoir de leur positionnement dans l'échelle des élections et la réalité du terrain. Bon, je dis et je répète que les deux partis politiques qui sont aujourd'hui en liste, qui sont premiers, ont utilisé quasiment la même machine électorale. Tout le monde sait qu'elle a été construite pendant presque une trentaine d'années. Il y a une certaine efficacité qui est là, il faut le dire. Et donc, le problème, pour moi, c'est pas qu'on reproche à ces élections-là, c'est quand même, effectivement, il y a eu certaines irrégularités, aussi de là. Mais je pense aussi qu'effectivement, ils ne sont pas forcément de nature à
changer, à modifier les résultats.
De façon... Voilà, oui, parce que quand on se balade aussi et puis qu'on se rend compte qu'on a du terrain, on voit bien que les gens aussi, il y a eu beaucoup d'argent qui a été dépensé dans la campagne.
Donc vous parlez aussi de corruption, achat de vote.
Mais les agents de corruption, je suis étonné qu'aujourd'hui, certains opposants puissent reprocher l'achat de conscience au parti au pouvoir aujourd'hui, puisque c'est la même formule qui a toujours fonctionné, et même dans tout ce qu'on fait.
Merci.
Et je pense qu'il y a eu autant d'achats de conscience au niveau de l'opposition et de clientélisme qu'il y en a eu au niveau du
merci.
Parti au pouvoir.
Merci beaucoup. On va revenir à vous tout à l'heure. Le temps de donner la parole à Bundi Ouba. Vous avez sans doute couvert cette élection. Est-ce que vous partagez l'avis de Serge Bambara?
D'un point de vue global, oui, parce que je note que arriver à organiser des élections dans des contextes sécuritaires tel est clair qu'il est le nôtre, ce n'était pas organisé avant.
Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? La ligne n'est pas très claire. Allez-y rapidement.
Donc, je disais tout à l'heure qu'arriver à organiser des élections dans le contexte de l'électricité très délicate de les nôtres, ce n'était pas chose gagnée d'avant. Cela dit, il y a eu des dysfonctionnements, il y a eu des irrégularités qui ont été observées au cours du scrutin du dimanche dernier. Mais, de notre point de vue, cela ne devrait pas, de manière générale, empêcher la régularité des résultats qui sont sur les jours.
D'accord, merci beaucoup Bundi. On va essayer de vous rappeler, la liaison avec vous à Ouaga n'est pas très claire. On va essayer de vous rappeler juste le temps d'accueillir Edouard Béranger-Ning. Bonsoir.
Bonsoir Liliane, bonsoir à tous.
Déjà beaucoup de questions de nos auditeurs sur les réseaux sociaux et on en sélectionne deux qu'on va soumettre à nos invités dans quelques instants.
Bien sûr Liliane, à tout de suite.
Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et suite du grand rendez-vous avec nos invités, Clément Sawadogo du MPP, Yves Milogo du CDP, Bundi Ouba, directeur de rédaction du journal Le Pays, et Serge Bambara, porte-parole du mouvement Balai Citoyen. Nos invités sont tous en ligne de Ouagadougou. Et Edouard, on a deux questions à leur poser. D'abord celle de Abbas.
Celle d'Abbas, Liliane, qui est adressée à Monsieur Bambara. Ne pensez-vous pas que la stratégie de l'opposition a été mauvaise et que c'est ce qui a provoqué le coup KO?
Il faut que je réponde maintenant.
Oui, bien sûr, Bambara, oui. Très rapidement, s'il
oui,
vous plaît.
Oui, bien sûr. Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec l'auditeur. Oui, effectivement, je pense que la stratégie de l'opposition n'a pas forcément été bonne. Et qu'à la limite, ce qu'il aurait fallu faire, je crois, c'est arriver à s'entendre au moins sur une candidature unique pour faire véritablement le poids. Les candidats ayant pratiquement les mêmes programmes, en tout cas les mêmes slogans, quasiment les mêmes postures, effectivement, les lecteurs se trouvent un peu perdus. Au-delà de tout, je crois que ça fait quand même, depuis l'insurrection, c'est la deuxième élection, Et nous, c'est déjà ça. C'est d'abord ça qui est important. Il nous fallait remettre la démocratie sur les rails. Ça faisait plus de 50 ans qu'il n'y avait pas de gouvernement civil. Hein. On a toujours été dirigé par des militaires. Donc, c'est la première fois depuis plus de 50 ans. Et donc, c'est une chose, remettre la démocratie sur les rails et faire en sorte qu'effectivement, elle soit au service du citoyen.
Mais vous dites que l'opposition aurait dû avoir un candidat unique, mais elle se préparait à soutenir le candidat au second tour qui arriverait et qui serait le mieux placé.
Oui, mais c'est malheureusement cela sous nos yeux. Malheureusement, voilà, oui, c'est la seconde chaussure. Ça, voilà, je veux dire, les gens ne sont pas capable de s'unir pour une cause. C'est aussi la preuve parfois aux yeux du peuple que finalement c'est simplement le fauteuil présidentiel qui les intéresse. À partir du moment où il y a vraiment une envie de changer, de sécuriser le pays, de faire en sorte que tout ce qu'on reproche au pouvoir actuel puisse être finalement redressé, il faut bien s'entendre sur l'essentiel. Et s'entendre sur l'essentiel, ça veut dire être capable de présenter une candidature unique.
Merci.
Et je pense qu'avec cela, ils auraient certainement pu justement obtenir cette fameuse deuxième
tour qui n'est pas arrivé.
Et
Rogmatician Kabore, comme en 2015.
Ils ont joué le jeu du parti au pouvoir, ils ont divisé leur voix, et donc voilà. Et donc, ils ont finalement ce qu'ils méritent par rapport à.
Le coup KO comme en 2015 avec quelques points de plus d'ailleurs. Édouard, on va.
Écoutez
également la question de Abdoul.
Abdoul, hein, la question pour Monsieur Milogo. Monsieur Milogo, Abdoul qui vous demande, est-ce que vraiment on peut contester la transparence de l'élection?
Oui, je serai très clair. On peut contester la transparence des élections. Et cela même, puisqu'il y a certains recours, déjà du fait qu'il y ait certains recours. Voilà. Madame demandait à ce que j'ai une réponse. Moi, j'ai pas de réponse. Il y a des questions sur lesquelles je n'ai pas encore de réponse dans la mesure où nos investigations sont pas terminées. Ça prendra du temps. Mais seulement, effectivement, la transparence des élections dans certaines zones est incontestable. Et là, je remercie, l'auditeur d'avoir posé cette question. Dans certains milieux où les élections ont été bien organisées, les bureaux ont ouvert à temps, même dans des villages, l'opposition est arrivée en tête, ou alors le MPP est arrivé en tête, je trouve ça louable. Et là, je ne peux que féliciter effectivement ceux qui sont arrivés en tête. Mais dans certaines zones, il y a eu des irrégularités par rapport à ça, il faut le noter.
Et dans vos investigations dont vous parlez, portent sur des irrégularités supposées dans certaines localités? Ou bien il y a d'autres aspects?
Oui, bien sûr, bien sûr. Des irrégularités, bien sûr que ça, c'est sur des irrégularités remarquées dans certaines localités. Et aussi à l'Assemblée. Lorsque M. Bambara disait que l'opposition a une mauvaise stratégie, j'ai dit non. Dans l'opposition, vous avez des gens qui ont effectivement des programmes et des tendances très différentes. Vous ne pouvez pas associer des libéraux avec des sociaux-démocrates. Donc, du point de vue...
Mais excusez-moi, même au sein du CDP, où vous êtes de la même famille, vous n'avez pas pu vous entendre. On a finalement vu que c'est la candidature de Eddy Komboigo qui est passée. Ça n'a pas empêché à M. Kadre Désé Ouédraogo de claquer la porte et de se présenter.
Chose. Mais ce n'est pas un problème idéologique, ça c'est plutôt autre chose. Mais je ne reviendrai pas là-dessus, ça serait très... Au CDP, alors, contrairement à ce que les gens peuvent penser... Le CDP, depuis le dernier congrès en 2018, a réellement mis en place un système de gouvernance démocratique. Alors, nous avons des vestiges, effectivement, du passé, où des gens ne veulent pas accepter cela. Celui qui veut être candidat à la présidence du CDP doit se prêter à la voix des urnes. Alors, ceux-là qui n'ont pas eu cette sanction des urnes sont allés ailleurs, ils sont libres.
Excusez-moi, monsieur, je posais la question parce que l'auditeur parlait de mauvaise stratégie et je relevais le cas parce que quand on regarde les résultats, on cumule les voix obtenues par monsieur Komboigo, 15,48%, et celle de monsieur Kadré Transfuge du CDP, on est à presque 20%. Oui. Donc, si M. Kadré ne s'était pas présenté, peut-être ces voix-là seraient allées plutôt à votre candidat, non?
Mais madame, nous sommes dans une république, dans une démocratie. Vous ne pouvez pas empêcher à quelqu'un de faire ce qu'il a envie de faire. C'est légal ce que Kadré a fait. Mais je ne dirais pas que c'est la mauvaise stratégie.
Merci.
Mais quand vous additionnez le pourcentage du MPP aujourd'hui et le pourcentage de l'opposition, vous ne retrouvez pas ce que, voilà. Donc, je ne pense pas que ça soit une mauvaise stratégie.
Merci beaucoup, monsieur Milogo. On va donner la parole à monsieur Sawadogo. Monsieur Sawadogo, vous êtes là? Allô, monsieur Sawadogo?
Oui.
Oui, comment accueillez-vous, comment analysez-vous les propos de M. Milogo qui dit avoir des doutes sur la transparence des élections?
Ben, je pense que M. Milogo peut se permettre d'avoir des doutes parce qu'il est à l'étranger, mais il n'y a pas un citoyen qui a des doutes sur la fiabilité de cette élection. Tous les observateurs, qu'ils soient nationaux ou internationaux, et ils sont plus de 3000, on a testé que les irrégularités dont on parle sont tellement minimes, infimes, qu'on ne peut pas se permettre de penser qu'elles remettent en cause la fiabilité de cette élection.
Soit, mais il parle aussi des stratégies qui a consisté, entre autres, à distribuer de l'argent. Il citait le cas de sa région, sa ville natale, Bobo Dioulasso. Il ne comprend pas comment vous ayez pu avoir autant de votes à Bobo Dioulasso dans une ville où les populations, selon lui, étaient mécontentes.
Vous savez, à mon avis, de nos jours, il est difficile d'obtenir une élection par une simple distribution d'argent. Parce que c'est vrai, nous sommes en Afrique, mais quand même, la conscience populaire, elle évolue. Vous pouvez, l'élection nécessite des moyens, hein, des moyens d'organisation, des moyens de circulation, etc. Et je crois que vous allez distribuer des billets de banque comme ça à des gens et avoir toute une masse. Alors, faites attention à quelque chose. Vous vous rendrez compte que sur l'ensemble du Burkina Faso, exception faite de deux provinces, la tendance du vote est homogène, du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est-à-dire que ceux qui ont donné leur suffrage à notre candidat, M. Roch Kabore, c'est à peu près dans les mêmes tendances sur l'ensemble du territoire. Est-ce qu'on peut vraiment distribuer l'argent aux quatre coins du pays comme ça pour avoir une élection? Ben, je ne pense pas.
Merci, M. Sawadogo. Merci. Monsieur Bundi Ouba, j'espère que la ligne est plus claire avec vous. Vous entendez? Alors, est-ce qu'on peut marquer quelques minutes sur les résultats de Zéphirin Diabré qui était arrivé second en 2015 et qui finalement se retrouve en troisième position derrière Eddy Komboigo? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné?
Ce qui n'a pas fonctionné, je ne saurais le dire, puisque je ne suis pas un militant du PC. Seulement, la réponse que je peux faire, c'est qu'en 2015, le Congrès pour la démocratie et le progrès avait été victime, pour ainsi dire, d'une loi d'exclusion qui n'avait pas permis à certains de ses leaders de se présenter, aussi bien à la présidentielle qu'aux législatives. Cela avait permis au parti de l'Ukraine d'y aller, l'Union pour le progrès, le changement, d'engranger beaucoup de voix aux législatives qui l'avaient permis de se positionner comme étant la deuxième force politique du pays. Cinq ans après, beaucoup d'eau sous les ponts et la donne a changé. Aujourd'hui, les CDP qui étaient mis hors course et revenus à la danse, ça a expliqué d'une manière ou d'une autre pourquoi l'UPC a noté un recul dans son rang par rapport à son positionnement de l'UPC.
Et même au niveau de son score.
Oui, ça n'a pas ensemble avec son score. Parce que le CDP en 2015, il n'avait même pas aligné un candidat à la présidentielle.
D'accord. Je suis vraiment désolée, Bundi, la ligne n'est pas très claire avec vous. Je pense qu'on va devoir peut-être interrompre notre conversation. La technique me fait signe qu'on n'arrive pas à vous entendre clairement. Et nous allons donc poursuivre avec les trois autres et toutes nos excuses à vous, Bundi Ouba. Monsieur Milogo, comment expliquez-vous qu'il y a eu un consensus avant les élections et que du coup, après ce scrutin, vous commencez à émettre des doutes sur le processus et même sur la commission électorale?
Non, je n'émets pas des doutes sur la commission électorale. C'est pourquoi je vais être très, très clair. Le consensus dont parlent souvent les gens de la majorité du pouvoir, c'était sur certains points, effectivement, du code électoral. Parce que Vous avez Bondy l'a relevé tout à l'heure. Nous-mêmes, bon, nous construisions notre parti depuis 2018. Nous arrivions le code électoral. Ce qui était important pour nous, c'est qu'on lève un peu des verrous qu'ils avaient mis pour nous empêcher, nous, de participer à ces élections. Donc, notre bataille, dès le premier temps, ça consistait d'abord à ce que des articles du code électoral qui nous concernaient soient levés. Or, ce qui a été fait, bon, on n'a pas eu peut-être le temps de lire tout le code électoral, mais sur ce point-là, nous n'aimons pas de doute sur la CENI et l'organisation de la CENI. Non, nous ne contestons même pas l'organisation, mais nous disons là où il y a eu des irrégularités.
Donc vous estimez que la CENI a assuré et a fait tout son possible pour des élections transparentes.
La CENI a travaillé dans des conditions difficiles, madame. Je prends le cas de la région de la province du Soum. Sur 83 bureaux de vote, la CENI n'a pu ouvrir que 38.
En raison de la situation sécuritaire.
En raison de la situation sécuritaire. Et là, je vais encore vous dire une chose. Comment se fait-il pour l'enrôlement, il puisse enrôler 83 au moment des votes, il ne peut ouvrir que 34. Est-ce qu'on a eu moins de personnel de sécurité et de défense pour assurer cela? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est pour vous dire, la CENI, effectivement, a fait un travail remarquable et difficile. Moi-même, le jour du vote, je suis allé déposer des éléments qui devaient s'occuper des bureaux dans des villas reculées sans route. Et à ma grande surprise, à 5 heures du matin, les gens étaient alignés et d'autres personnels ont dormi sur place.
D'accord, mais est-ce qu'au regard de tout ça, vous comptez contester les résultats de ces élections?
Mais madame, il y a des procédures qui sont en cours, ce sont des faits. On attend analyser ces faits et aboutir. Je ne dis pas cela parce que ça va invalider cette élection.
Merci.
Nous parlons pour le futur. Parce que le ministre Clément minimise un peu la distribution d'argent, mais ce sont des méthodes qui entachent notre bon fonctionnement pour le développement. Parce que la corruption, ça ne peut pas développer la corruption, ça ne peut pas...
Mais sauf qu'on a eu des journalistes burkinabés qui ont affirmé que l'opposition... Oui, c'est également lancé dans ce que vous appelez distribution d'argent.
Bon, peut-être, mais le CDP n'avait pas d'argent pour distribuer. Nous nous sommes attelés à organiser nos structures et à donner un discours avec un programme.
Merci. On va écouter. Merci beaucoup, Monsieur Milogo. Permettez qu'on écoute Serge quelques secondes. Serge Bambara, est-ce que quand vous écoutez ces propos, vous redoutez des fortes contestations post-électorales dans votre pays?
Bon, dans tous les cas, nous, on appelle à la pacification et puis, bon, que ceux qui ont des plaintes se déposent dans les juridictions compétentes, c'est tout. C'est un pays démocratique et si ça l'est, il faut. Chacun a le devoir, a la possibilité en tout cas de se plaindre, mais en passant par les juridictions compétentes. Pour le reste, le peuple ne peut pas être le dindon de la part. Les citoyens ont joué leur rôle, ce sont à leurs élections. Et bien, s'il y a des bagarres politiciennes, il faut qu'elles se règlent de façon juridique, mais pas
autrement. Et qu'il n'y ait pas de tension qui puisse créer une instabilité. Merci à vous, messieurs. Restez avec nous, on marque une petite pause.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et nous continuons de parler des résultats provisoires de la présidentielle au Burkina Faso avec la victoire dès le premier tour du président sortant Roch Marc Christian Kabore. Et nos invités sont tous en ligne de Ouagadougou, Yves Milogo, responsable de la communication du CDP, Serge Bambara, porte-parole du mouvement Balai Citoyen et Clément Sawadogo, vice-président du MPP et porte-parole de Roch Marc Christian Kabore. Et Monsieur Sawadogo, nous allons nous adresser à vous à présent. Alors en 2015, votre candidat avait gagné avec un coup KO 53,49% des voix et cette année, il remporte de la même façon, c'est-à-dire avec un coup KO avec 57,87% des voix, alors même que le CDP est de retour sur la scène politique. Est-ce qu'on ne peut pas comprendre un peu les interrogations que certains ont par rapport à ces résultats?
Ce résultat est tout à fait normal quand on regarde l'évolution un peu des partis dans dans les dernières années. D'abord parce que le CDP n'était pas, n'avait pas de candidat en 2015, mais son électorat avait voté en faveur de M. Justine Diabre. Deuxièmement, en abordant cette élection-ci, l'IPCC de M. Justine Diabre a beaucoup perdu de sa forme parce qu'elle a subi plusieurs scissions en son sein. Et vous vous rappellerez donc qu'il y a eu 13 députés qui avaient quitté ce parti. Et la dernière scission s'est effectuée juste avant même les élections. Il y a eu une série de ces militants, un affaiblissement évident. Le CDP, quant à lui, partait avec cette scission également, avec M. Padre Désiré Ouédraogo, de sorte qu'en réalité, et comme ce parti-là ne veut pas reconnaître que le problème vient d'eux-mêmes, mais en réalité, ils partaient déjà affaiblis pour l'élection. Ça, c'est une réalité. Et donc, nous avions la part belle dans les conditions, parce que notre parti s'est consolidé et a été soutenu par 72 autres partis. Oui. Constituer l'alliance de la majorité présidentielle.
Oui, avec M. Sawadogo, vous expliquez ce score par l'affaiblissement, entre autres, de l'opposition, mais il y a aussi que vous partiez à ces élections avec un bilan sécuritaire problématique, voire chaotique.
Alors, ce bilan sécuritaire, c'est vrai que tous les candidats de l'opposition ont jeté leur dévolu, je veux dire, sur la critique de ce bilan sécuritaire. Mais le peuple du Burkina Faso n'a pas voulu considérer que le responsable de cette situation est M. Roch Kabore. Parce qu'il a commencé son régime à peine, que le pays a commencé à être frappé, et au contraire, les yeux étaient tournés vers, voilà, j'allais dire, un peu l'ancien régime, dont ceux qui nous frappent étaient aussi à un moment donné des hôtes et des amis au Burkina. Alors donc, on a beau parler de ça, mais le citoyen burkinabé voit que, en réalité, M. Roch Kabore n'a été que victime avec tout son peuple. Au contraire, il a été obligé d'organiser la résilience pour sauver ce qui pouvait l'être.
Merci, donc, M. Sawadogo. Pardon, Serge Bambara, vous faites également la même analyse pour expliquer le faible score de l'opposition et surtout de l'UPC, du candidat de l'UPC.
Écoutez, moi je dis que c'est une question de stratégie et bon voilà, après je pense que c'était peut-être plus évident pour un parti au pouvoir, même d'une certaine façon, qui a eu le temps de lier sa machine. Mais je dirais aussi que l'opposition effectivement a marqué des décisions et surtout d'une cité. Et moi je répète que si je peux même prendre le même, je peux reprocher éventuellement la même chose aux élections de Côte d'Ivoire, mais j'imagine que c'est un peu à chaque fois le même cas. Si l'opposition arrive à dégager un candidat unique, c'est évident que ça va, la tâche en sera encore plus aisée, encore faut-il qu'il le fasse. Maintenant, au niveau de qu'est-ce qui a manqué à l'UPC ou au CDP, je dirais que, bon, à peu près la même base électorale. Ben, je crois que l'UPC, moi, je trouve qu'ils ont malheureusement, ils se sont éloignés de. Ils se sont éloignés de comment on appelle ça, des insurgés. Ils ont pris position, certaines positions sont rapprochées éventuellement du CDP.
Merci, M. Bambara. En quelques mots, comment analysez-vous le score de la seule femme candidate? Elle a quand même obtenu 15 000 voix, même s'il reste avant-dernière sur les 13 candidats. Allô? Bon, je vais poser la question à... Oui, allez-y, s'il vous plaît, rapidement.
Okay. Oui, non, je disais que c'est très bien. Même si on n'est pas en droit de s'attendre à mieux, comme c'est la seule femme candidate, on aurait pu s'attendre à ce qu'effectivement, ne serait-ce que l'électorat féminin qui est majoritaire au Burkina Faso, c'est pas fait honneur, là. Maintenant, après aussi, peut-être que c'est sa première expérience.
Elle s'est engagée à 4 mois de l'élection.
Oui, bon, justement, c'est clair. Je crois qu'il y a beaucoup de candidats qui se sont engagés très tardivement. Et bon, du coup, effectivement, sans pour autant avoir forcément l'expérience qu'il faut dans ce domaine-là, parce que c'est carrément autre chose.
Merci. Voilà, Désolé, nous, il nous reste à peine une minute pour conclure ce débat et je vais vous laisser cette minute, Monsieur Milogo, pour conclure. Alors, si les résultats se confirment, hein, voilà donc votre parti, le CDP, qui devient parti leader de l'opposition. Qu'est-ce que vous entendez faire pendant votre temps en tant que leader de l'opposition, parti leader de l'opposition?
Alors, si les résultats se confirment, notre parti va saluer la victoire du MPP. Alors, nous serons dans l'opposition. Nous allons renforcer notre parti, renforcer la gouvernance démocratique dans notre parti, reprendre notre bâton de pèlerin et aller justement auprès des populations comme nous l'avons fait.
Bon, est-ce que vous entendez imposer, par exemple, le retour de Blaise Compaoré dans l'agenda prioritaire du président Kaboré, si évidemment sa victoire est confirmée?
Le président Kaboré a déjà son agenda, il a prévu cela. Donc oui. Nous nous attendons à ce
Mais
qu'il
je dis l'agenda prioritaire. Bon, alors, il a dit sans toutefois dire à quel moment ce retour est possible.
Bon, je pense qu'en fonction peut-être de ce qu'il aura comme agenda, bon, nous lui rappellerons que ça se fasse le plus rapidement possible pour avoir la quiétude dans notre pays. Contrairement à ce que le porte-parole du MPP Clément disait, l'insécurité, c'est le résultat de leur gouvernance, puisque ce résultat n'était pas là. Donc, ils n'ont même pas fait une bonne analyse de cette situation. Et si eux, ils savaient ce qui attaquait le Burkina ou ceux qui étaient complices, c'est leur devoir de les arrêter, de les emprisonner et de faire marcher. Nous, ce que nous demandons, c'est la quiétude au niveau du pays, la sécurité. Alors, sur ce terrain, si eux ils disent c'est parce que voilà le roc est arrivé, non, c'est parce qu'ils étaient incapables que l'insécurité s'est installée. Même sous la transition, les terroristes n'ont pas osé frapper au Burkina Faso.
Merci beaucoup, Monsieur Milogo. C'est clair que ce débat sur la sécurité ou l'insécurité au Burkina Faso reste toujours vif. Et nous allons remercier tous nos invités qui ont participé à ce grand rendez-vous sur les résultats provisoires de l'élection présidentielle au Burkina Faso. Clément Sawadogo, vice-président du MPP et porte-parole de Roch Marc Christian Kaboré, et Serge Bambara, porte-parole du mouvement Balais Citoyen. Yves Milogo, responsable de la communication du CDP. Merci également à vous, Bundi Ouba. Nous avons dû interrompre la communication avec vous parce que la ligne n'était pas très claire. Merci à l'équipe qui m'a aidé à vous proposer cette émission, Edouard Nying et Hugo Vallière.